Bonjour à chacun. En ce dimanche de Pentecôte, j'aimerais sans surprise parler du Saint-Esprit. Non pas de sa venue à la Pentecôte, mais d'un aspect lié à sa présence dans la vie du croyant dont on ne parle pas souvent. Il s'agit de la tristesse du Saint-Esprit, telle que l'apôtre Paul en parle dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 4, verset 3, où il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Avant de réfléchir au sens de cette exhortation, je vous propose de dire quelques mots sur le contexte de cette parole. Quel est-il ? Après avoir décrit la vie païenne au chapitre 4, versets 17 à 19, que les Éphésiens à qui il écrit ont quitté pour s'attacher au Christ, après avoir dit quelques mots sur la vie chrétienne qui est la leur maintenant dans les versets qui suivent, les versets 20 à 24, l'apôtre Paul dans les versets qui suivent, les versets 25 à 32, enseigne ce que cela implique concrètement de vivre en chrétien ou comme il le dit au verset 24, de revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est dans cette dernière section, allant donc des versets 25 à 32, que je vous invite à lire maintenant, que se trouve le verset qui nous intéresse ce matin sur la tristesse du Saint-Esprit. Je lis donc au verset 25, c'est pourquoi « Rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Avant d'en venir à notre verset et à la question sur la tristesse du Saint-Esprit que le chrétien peut susciter, j'aimerais dire quelques mots sur le Saint-Esprit lui-même. C'est notre deuxième point après les quelques mots d'introduction. Et la première chose que j'aimerais dire et rappeler, et qui est implicite dans notre texte, c'est que le Saint-Esprit est une personne qui plus est sensible. Le Saint-Esprit n'est pas juste une force ou une puissance, fût-elle celle de Dieu, comme l'affirment par exemple les témoins de Jéhovah. En fait, le Saint-Esprit est une personne divine, la troisième personne de la Trinité. Comme Dieu, puisqu'il est Dieu, le Saint-Esprit éprouve des sentiments. Il possède toute la sensibilité de Dieu et la tristesse fait partie de la palette des sentiments qu'il ressent. Ainsi, il est possible de le peiner, de l'attrister, de l'affliger. Notons bien que ces sentiments ne sont pas l'expression d'une impuissance ou d'une faiblesse. Ils ne sont pas non plus une façon de nous manipuler pour arriver à ses fins. En réalité, la tristesse du Saint-Esprit est comme un amour. Si l'Esprit-Saint est attristé, c'est parce qu'il nous aime. C'est pourquoi il est attristé quand nous avançons sur une mauvaise voie, quand nous nous éloignons de la volonté de Dieu, quand nous donnons accès ou prise au diable, comme l'apôtre le souligne au verset 27. Notons pour cette dernière expression qu'il ne s'agit pas de tomber sous l'influence et l'emprise du diable, mais de permettre au diviseur, c'est le sens du mot diable, de briser l'unité du corps de Christ dont il est question dans cette section. Quelques mots maintenant sur la présence et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Avant de quitter ses disciples, Jésus leur a promis le Saint-Esprit qui leur a été donné à la Pentecôte et que chaque croyant reçoit dès qu'il met sa foi en Jésus pour son salut. C'est ainsi que le Saint-Esprit vient habiter en chaque disciple de Jésus dont il fait son temple, et qu'il commence alors une œuvre de sanctification, de transformation à l'image du Christ, dont nous avons parlé il y a 15 jours dans le message « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Œuvre qui s'achèvera quand nous le verrons tel qu'il est, alors, dit l'apôtre Jean, nous serons semblables à lui. Cette œuvre de l'Esprit dans la vie de celle ou celui qui l'a régénéré n'est rien d'autre que l'application à nos vies de tous les mérites et tous les bénéfices acquis par le Christ, par sa mort et par sa résurrection. Cela nous rappelle que chaque personne de la Trinité est active dans le salut, pas juste le Fils. Chacun a son rôle. Le Père planifie et envoie le Fils. Le Fils obéit au Père et donne sa vie. L'Esprit Saint est envoyé par le Père et par le Fils pour appliquer au cœur et à la vie du croyant l'œuvre accomplie par le Fils, rendant ainsi le croyant capable de marcher en nouveauté de vie. C'est donc le Saint-Esprit qui nous permet de vivre en chrétien. Sans lui, il n'y aurait pas de vie chrétienne, pas de vie nouvelle. Sans lui, nous serions incapables d'obéir à Dieu. Incapables, pour reprendre certaines expressions trouvées dans l'Épître aux Éphésiens, de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, chapitre 4, verset 1, de marcher comme des enfants de lumière, chapitre 5, verset 8, de veiller à notre conduite, non pas comme des fous, mais comme des sages, chapitre 5, verset 15. Oui, c'est l'Esprit Saint en nous qui nous rend capables de ces choses, qui nous transforme à l'image de Christ, qui œuvre en nous et avec nous à notre sanctification. Mais encore faut-il le vouloir. Encore faut-il choisir, jour après jour, de marcher par l'Esprit et non selon la chair. Encore faut-il vivre, faut-il vouloir vivre d'une manière qui réjouisse Dieu et son Esprit et non qui l'attriste. Il est temps maintenant de parler de la tristesse de l'esprit. C'est notre troisième point que nous aborderons essentiellement en répondant à quatre questions. Pourquoi le Saint-Esprit s'attriste-t-il? Par quoi le Saint-Esprit est-il attristé? Que se passe-t-il quand le Saint-Esprit est attristé? Et que faire quand nous avons attristé le Saint-Esprit? Premièrement donc, pourquoi le Saint-Esprit s'attriste-t-il? Notons tout d'abord que ce sujet de la tristesse du Saint-Esprit n'est pas une nouveauté du Nouveau Testament. Nous la trouvons également dans un verset du prophète Ésaïe, au chapitre 63, verset 10, qui est certainement l'arrière-plan de la pensée de l'apôtre ici. Pourquoi le Saint-Esprit s'attriste-t-il? Il y a deux parties à la réponse à apporter. Premièrement, à cause de qui il est, et deuxièmement, à cause de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. En effet, l'Esprit est saint et nous sommes pécheurs, nous péchons donc. Notons que ce n'est pas seulement l'Esprit qui est saint, mais c'est toute la Trinité. Le Père est saint, le Fils est saint, l'Esprit est saint. C'est très certainement pour souligner son œuvre de sanctification que l'Esprit est appelé le Saint-Esprit, et non pas parce qu'il serait plus saint que le Père ou plus saint que le Fils. Dans notre texte, nous avons littéralement l'Esprit, le Saint de Dieu. C'est donc parce qu'il est saint que l'Esprit est touché, affecté par notre péché, comme le sont le Père et le Fils. Mais c'est aussi parce qu'il nous aime. C'est aussi parce qu'il veut notre bien. En effet, comment pourrait-il se réjouir en nous quand nous faisons le choix des œuvres de la chair plutôt que celui de marcher par l'Esprit ? Comment pourrait-il se réjouir en nous quand nous agissons comme si nous n'avions pas été adoptés dans la famille de Dieu, comme si nous n'étions pas au bénéfice du sacrifice de Jésus pour nos péchés ? Comment pourrait-il se réjouir en nous quand nous choisissons de faire ce qui nous éloigne de Dieu et de son plan d'amour pour nous ? Comment pourrait-il se réjouir en nous alors qu'il est le témoin privilégié de notre péché et de notre désobéissance ? Comment pourrait-il se réjouir en nous quand nous bafouons par notre péché volontaire, le sacrifice de Jésus ? Si je passe dans la rue et que j'entends un enfant tenir des propos grossiers, je serai choqué, mais je ne serai pas trop affecté parce que je n'ai aucune relation avec lui. Par contre, si c'est mon enfant qui tient les mêmes propos, je serai profondément affecté parce que je l'aime et parce que je désire le meilleur pour lui. Il en est de même avec l'Esprit de Dieu en nous. Sa tristesse souligne son amour et sa bienveillance à notre égard. Sa tristesse souligne que nous sommes enfants de Dieu. Sa tristesse souligne aussi la grande liberté que nous avons et que Dieu respecte. Tout comme Dieu ne force pas l'incroyant à croire, il ne force pas le croyant à se laisser sanctifier. Comme l'écrit René Pache dans son livre sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, je cite, « En mettant en nous son esprit de sainteté, le Seigneur aurait pu nous imposer en toute chose sa volonté et nous contraindre en un instant à abandonner tout péché. Son but est bien de nous affranchir du mal en nous laissant réaliser parfaitement sa volonté, mais il désire que nous y consentions librement. Il nous laisse la redoutable possibilité de résister à sa présence auguste et d'attrister son Saint-Esprit qui est en nous. Quelle responsabilité alors que la nôtre, si nous répondons mal à un tel bienfait ? » Fin de citation. C'est donc notre péché qui attriste le Saint-Esprit en nous, et c'est ce que Paul souligne dans la section de notre verset. Et cela nous amène donc à la question suivante, par quoi le Saint-Esprit est-il attristé ? Puisqu'il est Dieu, puisqu'il est saint, il est attristé par tout ce qui est contraire à sa nature, à sa sainteté. Il est l'esprit de sainteté, Romains 1, verset 4. Toute impureté, toute souillure, tout péché l'attriste. Il est aussi l'esprit de vérité, Jean 14, verset 17. Tout mensonge, toute hérésie, toute tromperie, toute hypocrisie l'attriste. Il est l'esprit de foi, de Corinthiens 4, verset 13. Toutes nos incrédulités, nos doutes, nos tiédeurs, nos manques de foi l'attristent. Il est l'esprit d'amour et de grâce, Hébreux 10, 29, 2 Timothée 1, 7. Toutes nos duretés, nos refus de pardonner, nos amertumes, nos ressentiments et nos manques d'amour l'attristent. C'est donc notre péché qui l'attriste. Dans les versets 25 à 32, l'apôtre Paul donne quelques exemples. Verset 25, quand nous mentons. Verset 26, quand nous péchons en nous mettant en colère. Verset 28, quand nous dérobons. Verset 29, quand nous prononçons des paroles mauvaises. Verset 31, quand nous avons de l'amertume, de l'animosité, quand nous calomnions, etc. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Ce ne sont que quelques exemples. Cependant, des exemples choisis, sans doute, car ils ont tous quelque chose à voir avec la communion fraternelle et l'unité des chrétiens. Ce sont tous des péchés qui mettent à mal la vie de l'Église et son unité, qui donnent prise au diable en lui permettant de semer la discorde et de briser l'unité du corps de Christ. Paul a commencé cette section en rappelant au verset 25 que nous sommes membres les uns des autres. Le plan de Dieu pour nous en nous sauvant n'est pas que nous vivions chacun dans notre coin, mais que nous formions l'Église, son peuple nouveau, son peuple racheté, dont Christ est la tête. Et tout ce qui met à mal l'Église attriste tout particulièrement Dieu et le Saint-Esprit. Et je pense que c'est là la raison du choix de ces exemples par l'apôtre Paul. Mais mettre l'accent sur cette réalité ne veut pas dire que les autres péchés l'attristent moins. Chaque fois que nous péchons, quel que soit le péché, nous attristons l'Esprit de Dieu en nous parce que nous allons contre sa nature et parce que nous allons contre la nature nouvelle que Dieu a mise en nous. Parce que nous revenons à nos anciennes voies en faisant les œuvres de la chair plutôt qu'en marchant par l'Esprit. S'il y a des choses qui attristent le Saint-Esprit en nous, notons cependant qu'il y a aussi des choses qui le réjouissent. C'est pourquoi chaque condamnation d'un péché dans notre texte est suivie par une action positive à faire. Ainsi, verset 25, il ne s'agit pas juste de ne pas mentir, mais de parler avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ainsi, verset 26, il ne s'agit pas juste de ne pas pécher en se mettant en colère, mais d'agir pour que le soleil ne se couche pas sur notre irritation. Ainsi, verset 28, il ne s'agit pas juste de ne pas dérober, mais de travailler honnêtement pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ainsi, verset 29, il ne s'agit pas juste de ne pas prononcer des paroles mauvaises, mais de parler de bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Chaque fois que je vais à l'encontre de sa nature, j'attriste donc l'Esprit de Dieu en moi, mais chaque fois que je fais le choix de marcher par l'Esprit, que je refuse de céder au désir de ma nature pécheresse, je réjouis son cœur, car je progresse dans la sanctification, car Christ est un peu plus formé en moi. Par quoi le Saint-Esprit est-il attristé ? Par mon péché, par tous mes péchés, et tout particulièrement par le péché qui met à mal la vie de l'Église. L'Église pour laquelle Jésus a donné sa vie. Combien il nous faut chérir l'Église, parce qu'elle est le corps de Christ. Elle est l'épouse qu'il s'est acquise en donnant sa vie pour elle et qu'il reviendra un jour chercher. Elle a un grand prix à ses yeux. Nous arrivons maintenant à la troisième question. Que se passe-t-il quand le Saint-Esprit est attristé ? Nous quitte-t-il ? Cesse-t-il de nous aimer ? Qu'en est-il ? Soulignons tout d'abord sa souffrance. C'est bien de cela dont il est question quand nous parlons de la tristesse de l'esprit. Le verbe attrister en grec signifie causer de la peine, causer de la souffrance ou de l'inquiétude. Le Saint-Esprit souffre quand il est attristé. Soulignons ensuite que beaucoup de chrétiens vivent avec cette idée fausse que quand l'Esprit de Dieu en nous est attristé, il nous quitte. À l'instar de ce qui se passait parfois dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Si cela était le cas, j'ai tendance à penser qu'il serait alors souvent parti, souvent absent, car nous faillissons de tant de manières. en pensée, en parole et en acte. Mais depuis la Pentecôte, l'Esprit de Dieu nous est donné définitivement pour demeurer éternellement avec nous. Jean 14, verset 16, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur qui soit éternellement avec vous. » Jamais Dieu ne retire son esprit de son enfant. Jamais il ne lui retire sa grâce. Jamais il n'annule son adoption. Jamais il ne revient sur sa justification, sur le pardon de ses péchés. Nous pouvons attrister l'Esprit de Dieu, mais nous ne pouvons pas le perdre si nous sommes un enfant du Seigneur. C'est d'ailleurs ce que Paul dit avec son image du sceau, quand il dit dans notre verset que nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. L'apôtre a déjà parlé de ce point dans son premier chapitre au verset 13. Je lis en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit nous scelle donc, nous marque de son sceau, signifiant par là que nous lui appartenons pour toujours. Notons que ce don de l'Esprit constitue en plus l'acompte de l'héritage céleste que Dieu nous a préparé. Cet acompte, comme tous les acomptes, garantit que la totalité du paiement sera effectuée, ce qui veut dire que le salut complet et définitif nous sera donné au jour de Jésus-Christ. Non, l'enfant de Dieu ne peut pas perdre l'Esprit Saint en lui par lequel il a été scellé pour le jour de la rédemption. Mais alors, que se passe-t-il quand le Saint-Esprit est attristé ? Il reste en nous et il œuvre en nous pour nous ramener dans le droit chemin. Il agit ainsi parce qu'il nous aime. Et comment le fait-il ? Il le fait en nous convainquant de péché. Dans Jean 16, versets 7 et 8, Jésus dit au sujet de l'Esprit Saint qu'il leur enverra, « Cependant, je vous dis la vérité, c'est Jésus donc qui parle, « Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Une des œuvres du Saint-Esprit en nous est de travailler notre conscience pour nous faire voir les choses comme Dieu les voit, de parler à notre cœur, de nous reprendre avec douceur, de nous exhorter, de nous avertir, de nous convaincre de péché pour nous faire revenir à lui. Mais parfois, quand nous nous endurcissons, quand nous persistons dans l'erreur et dans le péché, cela n'est pas suffisant. Il faut alors que Dieu exerce sur son enfant une discipline salutaire. C'est ce dont parle le texte d'Hébreux 12, les versets 7 à 11 que je lis maintenant. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas ? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient, que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. mais plus tard elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est parce que Dieu nous aime et parce qu'il veut notre bien qu'il nous discipline quand nous persistons dans nos mauvaises voies. Cela paraît toujours au premier abord un sujet de tristesse, mais plus tard, nous pouvons nous réjouir quand nous voyons le fruit de justice que la discipline aimante de Dieu a formé en nous. Que se passe-t-il quand le Saint-Esprit est attristé ? Il faut ajouter ici, après tout ce que nous venons de dire, que notre péché qui attriste le Saint-Esprit met aussi à mal notre communion avec lui, avec Dieu. Certains parlent ici de puissance, de perte de puissance. Je dirais plutôt que le péché vient faire obstacle entre Dieu et moi, et que cela se répercute forcément sur ma communion avec lui, sur mon service pour lui, sur tout ce qui découle de l'action de l'Esprit en moi. Ainsi, par exemple, quand je pêche, mon amour pour Dieu et mon prochain est affecté. Ma paix est affectée, ma joie est affectée. Finalement, tout ce que le Saint-Esprit produit en moi, et en particulier son fruit. Il reste une dernière question, peut-être la plus importante. Que faire quand nous avons attristé le Saint-Esprit ? On peut la formuler autrement, que faire quand nous avons péché ? Deux options s'offrent à nous. Soit nous nous endurcissons, soit nous nous repentons. C'est bien évidemment la dernière des deux qui est la meilleure. Si le péché nous satisfait un instant, il est comme une planche savonnée inclinée vers le bas. Plus nous péchons et plus nous nous éloignons de Dieu et de son Esprit en nous. Quelle est la solution quand nous péchons, quand nous avons attristé le Saint-Esprit ? La bonne solution, c'est de saisir la main tendue de l'Esprit en nous, qui, comme nous l'avons dit, met tout en œuvre pour nous ramener dans la communion avec Dieu. N'oublions jamais que Dieu accueille toujours le pécheur repentant, à l'instar du Père dans la parabole du Fils prodigue. Que faire quand nous avons attristé le Saint-Esprit ? Je donne la parole à l'apôtre Jean qui écrit dans sa première lettre, au chapitre 1, versets 8 et 9, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Oui, c'est par la repentance que nous revenons à Dieu, après avoir péché, en confessant notre péché, en nous humiliant devant Dieu et en accueillant sa grâce. Et nous pouvons le faire avec la certitude, car sa parole nous le dit, qu'il nous pardonne toujours, qu'il nous accueille toujours, qu'il nous relève toujours. David était un homme selon le cœur de Dieu, dit l'Écriture, mais un homme néanmoins. Il n'a pas toujours fait les bons choix et il a même parfois gravement fauté. Voici ce qu'il écrit dans un de ses psaumes, le psaume 32. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi. Tu me gardes de la détresse. Tu m'entoures de cris de délivrance. Il est possible que ce psaume ait été écrit à la suite du péché avec Bathsheba, mais peut-être pas. Peu importe. Ce qui importe ici, c'est l'attitude de David, après avoir péché, après un temps d'errance spirituelle. Ce qui importe ici, c'est sa repentance. Et puis surtout, ce qui importe ici, c'est le pardon de Dieu. Un pardon toujours offert au pécheur repentant, un pardon qui ramène toujours le pécheur repentant dans la communion bienveillante et bienfaisante de Dieu. Chers amis, où en sommes-nous chacun de notre marche avec le Seigneur? Qui est-ce qui règne sur ma vie? Ma chair? Ma nature pécheresse? Ou l'Esprit de Dieu? Êtes-vous dans la communion du Saint-Esprit? Si c'est le cas, bénissez Dieu et comptez sur lui pour continuer à marcher par l'Esprit. Êtes-vous loin de Dieu parce que vous avez laissé le péché prendre de la place, trop de place dans votre vie? Si c'est le cas, revenez aujourd'hui à Dieu qui toujours nous offre sa grâce. Et marcher par l'Esprit. Car c'est ainsi, dit Paul aux Galates, que nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Car c'est ainsi que nous n'attristerons pas le Saint-Esprit. Amen.